Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Triste Tropique est un livre de l'ethnographe Claude Lévi-Strauss, publié en 1955. Il mêle souvenirs de voyage et méditations philosophiques. Cet ouvrage est un témoignage sur les voyages de Lévi-Strauss et sur son travail anthropologique. Lévi-Strauss se réfère principalement à ses séjours au Brésil, mais il décrit aussi ce qu'il a fait dans d'autres pays, en Inde ou au Moyen-Orient notamment. En outre, bien qu'il soit assimilable à la tradition des récits de voyages philosophiques, le livre est parsemé de réflexions philosophiques et d'idées venant de différentes disciplines comme la sociologie, la géologie, la musique ou la littérature. Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908 à Bruxelles. Ses parents sont Raymond Lévy, artiste peintre, portraitiste, petit-fils d'Isaac Strauss, chef d'orchestre à la cour de Louis-Philippe puis de Napoléon III, qui utilise Lévi-Strauss comme nom d'usage, et d'Emma Lévy, de famille juive alsacienne. Et c'est en 1961 seulement que Claude Lévi-Strauss obtiendra du Conseil d'État l'officialisation de son nom d'usage hérité de son père. Après la Première Guerre mondiale, Lévi-Strauss suit ses études au lycée Janson de Sailly, puis au lycée Condorcet, et découvre alors Karl Marx et Sigmund Freud. Il obtient une licence à la faculté de droit de Paris, avant d'être admis à la Sorbonne et d'être reçu troisième à l'agrégation de philosophie en 1931. Il se marie en 1932 à Dina Dreyfus, une ethnologue française qui l'initie et le convertit à cette discipline. Après 2 ans d'enseignement de la philosophie au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan dans les Landes et au lycée de Laon, Lévi-Strauss accepte la proposition du directeur de l'école normale supérieure, Célestin Bouglet, de participer à la mission universitaire au Brésil. Il quitte alors l'enseignement de la philosophie et la vie politique et part en 1935 avec son épouse en tant que professeur de sociologie à l'université de Sao Paulo. De là, il organise et dirige plusieurs missions ethnographiques dans le Mato Grosso et en Amazonie. De retour en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Lévi-Strauss est mobilisé en 1939-1940 sur la ligne Maginot comme agent de liaison, puis, après la débâcle, enseigne au lycée de Montpellier, avant d'être révoqué en octobre 1940 en raison des lois raciales de Vichy. Il se sépare de son épouse Dina et quitte la France avec l'aide de Varian Free en mars 1941 pour se réfugier à New York, alors au lieu de bouillonnement culturel, accueillant de nombreux intellectuels français en exil. En 1942, il rallie la France libre, l'organisation de résistance extérieure fondée par le général de Gaulle. La rencontre avec Roman Jakobson, dont il suit les cours et devient un proche, est décisif sur le plan intellectuel. La linguistique structurale lui apporte les éléments théoriques qui lui faisaient défaut pour mener à bien son travail d'ethnologue sur les systèmes de parenté. Il s'attelle alors à la mise en forme rédactionnelle des matériaux ethnographiques rapportés du Brésil. Rappelé en France en 1944 par le ministère des Affaires étrangères, il retourne aux États-Unis en 1945 pour y occuper les fonctions de conseiller culturel auprès de l'ambassade de France et poursuivre, grâce à la richesse des bibliothèques américaines, l'écriture de son premier grand ouvrage ethnologique sur la parenté, avec le projet d'en faire une thèse universitaire. Il épouse en 1946 Rose-Marie Hulmeau. La rédaction de sa thèse, Les structures élémentaires de la parenté, achevée, il rentre en France avec sa famille en 1948. En 1949, il soutient et publie sa thèse, devient sous-directeur du Musée de l'Homme, puis sollicité par l'historien Lucien Febvre, obtient une chaire de directeur d'études à l'École pratique des hautes études. En 1954, il épouse en troisième noces Monique Roman. Il publie en 1955 dans la collection Terre humaine, créée par Jean Mallory chez Plomb, Triste Tropique. En 1959, après deux échecs, il est élu professeur au Collège de France, à la chaire d'anthropologie sociale. Il fonde en 1961 avec Émile Benveniste et Pierre Gourou la revue L'Homme, qui s'ouvre aux multiples courants de l'ethnologie et de l'anthropologie et cherche à favoriser l'approche interdisciplinaire. Du début des années 1960 au début des années 1970, il se consacre à l'étude des mythes, en particulier la mythologie amérindienne. Il est élu en mai 1973 à l'Académie française et fait l'éloge de son prédécesseur, Henri de Monterlan. En 1982, il prend sa retraite et quitte son poste au Collège de France. Il pèse de toute son influence pour que Françoise Héritier, sa collaboratrice de longue date, lui succède. Le 28 novembre 2008, à l'occasion de son centenaire, de nombreuses manifestations sont organisées. Claude Lévi-Strauss meurt le vendredi 30 octobre 2009 d'une crise cardiaque à son domicile du 2 rue des Marronniers dans le 16e arrondissement de Paris. Il est inhumé dans l'intimité à Lignerolles, dans les Côtes d'Or, trois jours plus tard. Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil, et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin, des heures oisives pendant que l'informateur se dérobe, de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie, et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Qu'il faille tant d'efforts et de vaines dépenses pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. On peut, certes, consacrer 6 mois de voyage, de privation et d'écœurante lassitude à la collecte qui prendra quelques jours, parfois quelques heures, d'un mythe inédit, d'une règle de mariage nouvelle, d'une liste complète de noms claniques. Mais cette scorie de la mémoire, à 5h30 du matin, nous entrions en rade de récifs, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ? Pourtant, ce genre de récit rencontre une faveur qui reste pour moi inexplicable. L'Amazonie, le Tibet et l'Afrique envahissent les boutiques sous forme de livres de voyage, comptes rendus d'expéditions et d'albums de photographies où le souci de l'effet domine trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur du témoignage qu'on apporte. Loin que son esprit critique s'éveille, il demande toujours davantage de cette pâture. Il en engloutit des quantités prodigieuses. C'est un métier maintenant que d'être explorateur. Métier qui consiste, non pas, comme on pourrait le croire, à découvrir au terme d'années studieuses des faits restés inconnus, mais à parcourir un nombre élevé de kilomètres et à rassembler des projections fixes ou animées, de préférence en couleur, grâce à quoi on remplira une salle plusieurs jours de suite, d'une foule d'auditeurs auxquels des platitudes et des banalités sembleront miraculeusement transmutées en révélations pour la seule raison qu'au lieu de les démarquer sur place, leur auteur les aura sanctifiés par un parcours de 20 000 kilomètres. « C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.